cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe le 20 mars 1992 à Saint-Jeudard.
D'abord cette question. Vous dites qu'à tout principe découvert en philosophie correspond en critique un axiome, principe de l'ordre d'intelligibilité. Par exemple, l'axiome du bien, c'est ce que tous désirent, mais vous semblez aussi le dire pour la ratio boni. La ratio n'est-elle pas ce qui est premier dans l'intelligibilité? Sinon, quelle est la différence entre la ratio et l'axiome? Ah, c'est pas la même chose. La ratio signifie le fondement dans l'ordre de l'intelligibilité. Donc c'est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Je ne le découvre et je ne l'explicite qu'en critique, c'est sûr. Le point de vue de l'axiome exprime une propriété dans l'ordre de l'intelligibilité. Vous voyez, la ratio boni, qu'est-ce que c'est que la ratio boni? Ce qui a la capacité d'attirer. La propriété, c'est ce que tous désirent. Au contraire, là, ça colle parfaitement. Ce que tous désirent, c'est bien exprimer une propriété, c'est un effet. Oui, je pars de l'effet, ce que tous désirent, et je remonte à la ratio, mais je n'exprime pas la ratio. J'exprime l'effet, la conséquence. Si le bien, si la ratio boni est capable d'attirer, quel est son effet? Tous désirent. Alors, je continue. La ratio est-elle principe? Elle est première. Je ne dis pas principe. Bon, distinguons. Tout premier principe d'une certaine manière. Mais je n'explicite pas son rôle de principe. Je dis, elle est première. La ratio, c'est le fondement, c'est ce qui est premier. Puisque c'est de l'ordre de l'appréhension. Et l'appréhension est antérieure au jugement. Mais l'appréhension n'existe jamais sans le jugement. L'axiome implique toujours la ratio, mais la ratio n'implique pas toujours l'axiome. Et l'acuité, vous dites également, qu'elle est première dans l'ordre de l'intelligibilité, parfaitement, mais dans tel ordre d'intelligibilité de la définition. Par exemple, la quinité de Pierre, c'est homme, tout à fait d'accord. Homme est premier dans l'ordre de l'intelligibilité par rapport à Pierre, parce que c'est universel. Est-ce une ratio, un axiome, autre chose? C'est une quinité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous dites, je prends ratio boni, pourquoi dites-vous ratio boni et pas quidité? Pourquoi dites-vous ça? Quidité du bien. Je peux le dire. La ratio boni, c'est la quidité du bien. Mais je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que, ordinairement, quidité, c'est au niveau de la définition. Qu'est-ce qu'on définit? C'est la quidité. C'est ça que je définis. Une définition se fait par genre et différents spécifiques. exprime l'espèce. On peut le mettre là, si vous voulez. L'espèce est définie. Et l'espèce, c'est l'acuité. Tandis que la ratio ne se définit pas. Elle est au-dessus de la définition. Et elle est révélée à travers la saisie d'un principe. À toute ratio correspond un principe qui est saisi par induction. La ratio est au-delà du genre, au-delà des différences spécifiques. C'est une notion analogique. T'as l'acuité univoque. L'acuité de Pierre, c'est homme. Homme implique genre et différences spécifiques. C'est univoque. Tandis que la ratio boni, la ratio entis, c'est au-delà du genre. C'est saisi à partir d'une induction qui me donne un principe. La ratio entis implique la saisie de la substance, implique la saisie de l'être en acte. Est-ce que vous saisissez ça? Il y a deux registres dans notre vie intellectuelle. Ce que saint Thomas affirme tout le temps en disant l'abstraction universelle et l'abstraction formelle. Alors, il ne dit pas ce que je vous dis. Mais puisqu'il dit qu'il y a deux abstractions, il y a donc nécessairement deux niveaux. Le niveau de la définition et le niveau des ratios. Analogique, à partir des principes propres. Ce que la scolastique a complètement confondu. La scolastique décadente, pas saint Thomas. Dans la scolastique décadente, on croit qu'on définit tout. On ne définit pas la ratio entis. Correspond le concept d'être. Le concept d'être est fondé sur la ratio entis. Mais le concept d'être, il s'explicite progressivement. Jugement d'existence, ceci est. Chez le mot être. Et comment chez le mot être, à partir de ceci est. Je suis passé de est à être. Abstraction première, formelle. Et puis j'ai saisi la substance. Dès que je saisis la substance comme principe propre, selon la forme de ce qui est, mon concept d'être s'enrichit. Et je saisis la ratio entis. Mais c'est la vie d'intelligence. Les deux registres, c'est très très important. Le registre univoque, par genre et différence spécifique, la classification, les tiroirs. Et puis l'intelligence qui pénètre dans la réalité, qui saisit par l'induction les principes propres. Et l'axiome, c'est... L'axiome peut être saisi avant le principe, génétiquement. Le bien, oui, c'est descriptif. Le bien, c'est ce que tout saisit, c'est descriptif. Mais c'est un axiome. Ça montre que dès qu'il y a désir, il y a bien. Je le saisis descriptivement à partir d'une expérience. Alors, il pourrait y avoir des désirs mauvais, vous allez me dire, hein, qui ne sont pas, mais ce sont de faux désirs. Ce sont des velléités, des caprices. C'est ça, c'est de faux désirs, c'est pas un vrai désir humain. Le vrai désir humain sur un bien. Mais un désir, peut-être tout simplement. Le désir du chocolat en carême. Je promis au début du carême de ne pas prendre de chocolat. Petite assez, c'est pas grand-chose, mais quand même. Et plus je lui promis de ne pas en prendre, plus le désir augmente. S'ajoute à l'affirmation. personnellement, mais je n'ai pas vu quelqu'un le dire. De sorte qu'on est toujours très avec un point d'interrogation. Il me semble que c'est ça qui distingue la modernité de l'âge classique. C'est que la négation est première. Alors, c'est intéressant de voir comment je puis arriver à dire que la négation est première. C'est quand même quelque chose de capital dans la vie humaine. Psychologiquement, les psychologues diront qu'il y a l'âge de l'affirmation, l'âge de la négation. Ça n'explique rien, c'est une constatation. Paraît-il que l'enfant, quand il a 4 ans, commence à nier. Avant, au contraire. Alors, je peux donner des tas d'explications. C'est que par la négation, il s'affirme. Vous voyez, mais quand je dis par la négation, il s'affirme, ça prouve que la négation est au service de l'affirmation. Et donc, l'affirmation est première. C'est évident. Si la négation était première, il nie pour le plaisir de nier. Je crois qu'il nie pour le plaisir de nier, c'est déjà un sadisme intellectuel. Parce que personne ne nie pour le plaisir de nier. J'ai de la joie de nier pour être indépendant. Le jour des élections. Vous coupez la tête. Quelle joie! Je l'ai nié. J'en ai qu'un en valeur. Réfléchir sur les négations et les affirmations, c'est une expérience constante. Pourquoi c'est si difficile d'obéir? Parce que c'est se lier affirmativement. Pourquoi, j'allais dire, c'est si facile de dire non. C'est l'enfant de 4 ans qui continue d'exister en nous. La petite tête qui veut être indépendante et qui dit non. Alors, c'est intéressant de voir l'ordre des deux. C'est même capital, je crois, pour une intelligence qui veut progresser. Je ne progresse pas par la négation. Je ne progresse que par l'affirmation. Mais voyez, dire ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que l'intelligence est faite pour affirmer ceci et donc l'intelligence est faite pour la réalité. C'est le réalisme. Si je dis au contraire que l'intelligence est faite pour développer mes idées, je considère que les idées sont premières. Mais Descartes, et avant Descartes Occam, je nie pour libérer mes idées. Libération des idées, vous voyez, et c'est de mettre en premier l'appréhension de ces idées. Qui sont des idées innées. Pour que mes idées apparaissent vraiment comme premières, je dis. Des idées innées. Je crois. C'est contemporain. Et je crois bien que c'est ça qui permet d'affirmer que la négation est première. En réalité, j'affirme que mes idées, c'est la seule chose qui est intéressante. Oui. C'est mon avoir, les idées. C'est mon avoir. Tandis que quand j'affirme, je n'ai pas d'avoir. C'est l'intelligence qui accepte sa pauvreté. Elle est relative à la réalité qui existe avant elle. Elle est relative. Tiens, poussons un tout petit peu plus l'analyse. Qu'est-ce que c'est que la négation? C'est quand même important. Je vis dans un monde où la négation est constamment première. Alors, qu'est-ce que c'est que la négation? La négation, c'est le fruit de mon intelligence. La négation n'existe que dans mon intelligence. Et il y a négation et vérité qui n'existent que dans mon intelligence. C'est un peu les deux extrêmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce matin, à propos du vrai et de la vérité. Vous retrouvez quelque chose. Les deux se tiennent dans deux perspectives tout à fait différentes. La négation, elle n'existe. La négation, elle n'existe que dans mon intelligence. C'est mon intelligence qui la fabrique. De sorte que la négation, c'est un être de raison. C'est mon être de raison. C'est mon être de raison. C'est pour ça que je l'aime tant. Parce que c'est moi qui le fais. Vous voyez, c'est mon fat chéré. Dans l'ordre intentionnel. Déjà, c'est capable de nier. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, et ça, c'est très important de bien comprendre. Ceci n'est pas donc l'intelligence. Elle est capable d'affirmer, capable de nier. Donc, l'intelligence comme telle, est au-dessus du principe de non-contradiction. C'est pour ça que dans la dialectique hegelienne, quand on est au-dessus de la contradiction, c'est tout simplement ce retour vers la capacité de l'intelligence. Et c'est vrai que ce qui est capable, ce qui est possible, est au-delà de la contradiction. Il est possible que demain, il fasse moins beau qu'aujourd'hui. Il est possible que demain, il fasse plus beau qu'aujourd'hui. C'est pas contradictoire, parce que je suis dans l'ordre du possible. Le possible supporte la contradiction. Or, si je retourne sur l'intelligence capable d'affirmer, capable de nier, je peux dire que mon intelligence est au-dessus de la contradiction. Et c'est vrai dans sa capacité. Tandis que si je regarde l'intelligence faite pour affirmer, mon intelligence qui est déterminée par la réalité existante, je ne vois plus l'intelligence dans sa capacité, je la vois dans son exercice. Elle est actuée. Alors, elle est ou affirmation ou négation. Les deux ne peuvent pas être en même temps. L'être et le non-être ne peuvent pas, la vérité et l'erreur ne peuvent pas être en même temps. Donc là, il y a quelque chose de très important à bien saisir. Que la négation, c'est le fruit de mon intelligence. Comment se fait-il que l'intelligence est capable de nier? Quelle est la condition sine qua non pour que mon intelligence puisse nier? Pour aller jusqu'au bout de comprendre ce que c'est que la négation. Alors je vous disais la dernière fois que si une intelligence qui est abstraite et qui atteint l'universel grâce à l'abstraction est capable de nier. Donc, cet être de raison qui est la négation est un être de raison. C'est un être second qui présuppose toujours un premier universel. L'universel est aussi être de raison. Parce que vous n'avez jamais vu l'universel se promener tout seul. très important à saisir. Une intelligence qui abstrait et qui produit ce premier être de raison qui est l'universel. C'est le premier être de raison. Nous l'avons vu à propos de l'abstraction. Donc je n'insiste pas. Cet être de raison met une distance entre la réalité existante et la connaissance que j'ai de cette réalité. Je la connais sous le mode universel. Je connais Pierre en tant qu'il est homme. Donc j'ai laissé tomber des quantités de choses de Pierre qui étaient particulières à Pierre. Ici, il y a cette distance entre la réalité existante et ma connaissance. Je vois donc qu'il y a possibilité pour moi de me tromper. La connaissance n'est pas le reflet du réel, ce que dit Garotti en parlant du marxisme, en parlant de toute pensée dialectique. Toute pensée dialectique est le reflet du réel. Et c'est pour ça que quand la dialectique dit quelque chose, cela doit exister. C'est la tyrannie de la dialectique, ça. Alors que la dialectique est le fruit de l'intelligence. Mais dans la dialectique, je ne veux pas l'abstraction. Je veux la résoudre, la dépasser. Je veux tout le temps la dépasser. Je veux que l'universel soit singulier. Quand j'accepte l'abstraction, je vois donc que l'intelligence, quand elle connaît, elle s'écarte du réel existant. Elle prend ses distances. Homme, Pierre est un homme. Homme a une extension bien plus grande que Pierre. Donc, en disant homme, je prends mes distances. Prenant mes distances par rapport au réel, je vois que le réel, que je saisis partiellement avec homme, peut très bien exister ou ne pas exister. Vous voyez, la potentialité saisie dans l'universel me met en présence affirmation et négation. Cela peut être, cela peut très bien ne pas être. C'est le propre de tout terme universel. Le terme universel est au-delà de l'exister. Il est capable d'exister. Il est capable de ne pas exister. Donc, en tant qu'universel, il fonde la négation. Ce qui ne peut exister, ne pas exister. Alors que s'il y avait un décalque du réel, ben, du fait même qu'il existe comme image et qu'il est le reflet de la réalité, il n'y a pas de problème. Il faudrait que la première chose soit supprimée pour que le reflet soit supprimé. Donc vous voyez comment l'universel fait apparaître une capacité d'être ou de pas être. Tout ce qui est saisi universellement peut exister ou peut ne pas exister. Et comme c'est inclus dans l'affirmation, il y a d'abord l'appréhension. Nous avions vu le passage de l'appréhension au jugement, si vous vous souvenez bien. Nous avions vu la nécessité de passer l'universel, de poser l'appréhension, et la nécessité de retourner. L'aller et le retour. On a vu les deux. Pour bien comprendre que l'universel n'est pas le nom ni le verbe. L'universel, c'est ce qui est attribuable, ce qui est capable d'être attribué et ce qui est capable d'être ou de pas être. Donc, l'universel est nécessaire pour former la négation. Ceci n'est pas. Je ne peux pas nier la blanche, le mur blanc, il est. Mais je peux tandis que si je collais à toutes les réalités qui existent, simplement les reflétant, mais ce serait le reflet de toutes les réalités qui existent. Donc vous voyez, c'est bien la distinction de l'appréhension à l'égard du jugement qui fonde la nécessité du jugement, de la négation, et la possibilité de la négation. Or, le jugement, l'appréhension, me donne une connaissance universelle. Je peux donc dire que c'est la connaissance universelle qui fonde la négation. Ça, c'est très important. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Parce que ça me fait comprendre tout de suite que le jugement impliquant la négation, normalement, cette négation présuppose l'affirmation. Mais le jour où je mets le jugement, la négation en premier lieu, je mets l'être possible avant l'être en acte. Alors la question qui se pose, je mets le possible, puisque ceci n'est pas, ceci est. Donc il y a la capacité d'être ou pas être. La capacité d'être ou pas être, c'est donc l'être en acte.
Je m'exalte.
parce que quand j'affirme, je me lie à quelque chose qui est antérieur à moi. Ou à quelqu'un qui est antérieur à moi. Donc je me lie à lui en acceptant de lui être relatif. D'être tourné vers lui. Tandis qu'en le niant, je m'affirme comme indépendant de la réalité existante. Vous voyez toutes les conséquences qu'il peut y avoir de mettre la négation antérieure à l'affirmation. Donc, au plan critique, si je sais toutes ces conséquences, je dois défendre l'affirmation dans sa priorité. Pour ne pas tomber dans ces défauts qui arrivent immédiatement dès que la négation est antérieure. Et la négation chez Sartre est antérieure, c'est évident. Et elle est antérieure depuis Occam. Je crois que vous voyez bien ça. S'il y a là des questions, posez-les pour que puis.
La vieille de l'artiste, elle a une puissance importante de négation.
C'est l'idée, hein. Ce que je disais tout à l'heure. L'artiste n'est artiste que quand il a une idée. Fruit de l'inspiration. Autrement, il est manœuvre. L'artiste est possédé par son idéal qui provient de l'inspiration. Donc c'est ou inné ou fruit de l'inspiration. Ce qui est encore d'être inné. Et ce primat de l'idéal lui permet de nier tout le reste. Et cette fameuse parole que je vous disais de Claudel que j'ai entendue de mes propres oreilles à Fribourg. On a posé à Claudel: est-ce que vous avez subi telle ou telle influence? Claudel a répondu: je n'ai subi aucune influence. Alors, on dit à la manière de Claudel, vous savez, certaines puissances, c'est un taureau, Claudel. Il ne faut pas être trop près des cornes. Influence. Mais ça, c'est l'artiste. Mallarmé dit ça pour créer. Il faut tout nier avant. Puisqu'on crée ex nihilo. On crée à partir de rien. Et donc, si vous êtes disciple, si vous avez un maître, vous êtes relatif à lui. Ça, c'est la tentation de l'artiste, parce que les grands artistes sont des maîtres. Parce qu'ils reconnaissent que l'inspiration provient de l'expérience. Vous enrichissez votre inspiration grâce à l'expérience. Et quand on a l'expérience d'un grand maître, ah, ça nous enrichit. On gagne du temps, prodigieusement. Mais on comprend très bien la séduction de considérer que l'idéa qu'on a, c'est tout. Il n'y a rien avant. Et ça rejoint, alors, en art, ça se comprend. Chez le philosophe, c'est triste.